Chapitre 77. Franck Charcot se réveilla en sursaut lorsque le train d'atterrissage de l'Airbus entra en contact avec le tarmac de l'aéroport Ouavitsa de Poznan. Il émergea avec difficulté, se remémorant le déroulement des dernières heures, les contrôles de sécurité sanitaire à l'aéroport Charles de Gaulle, les fiches d'information qu'on distribuait au sujet de la grippe, les questions qu'on lui avait posées, puis les papiers qu'il avait eu à remplir dans l'avion avant l'atterrissage en Allemagne. « Avez-vous été en contact avec des personnes présentant des symptômes grippaux ces derniers jours ?» lui avait-on entre autres demandé. Pour éviter de rester cloué sur le sol français, Charcot avait menti sur toute la ligne. Ensuite, il y avait eu l'attente à Francfort, dans la salle d'embarquement, avec l'impression d'errer entre deux mondes. Puis sa montée dans un autre avion une heure plus tard, avant de succomber à un lourd sommeil. Après l'arrêt complet de l'appareil, il récupéra sa petite valise à roulettes dans le coffre situé au-dessus de son siège. Il ralluma, comme tous les passagers, son téléphone portable avant l'autorisation, s'empressa d'envoyer un message à Bertrand Cazu pour lui indiquer qu'il était arrivé et obtint une réponse avant même d'avoir quitté l'appareil. Son collègue avait pris ses quartiers dans son appartement, la mère de Lucie avait préparé des ailes de raie au beurre, tout allait pour le mieux. Charcot se sentit rassuré. Cazu était un chic type. Il passa les contrôles et récupéra des zlotys au distributeur de billets. Lukian Krutchek l'attendait au point de rencontre, vêtu en civil, muni d'une ardoise marquée « Franck Charcot », sans le C, entre les mains. Un type costaud, aux courts cheveux blonds, aux yeux d'un bleu glacial, enfoncé dans un trois-quarts en cuir boutonné jusqu'au cou. Au premier abord, il dégageait une froideur d'agent du KGB. Charcot estima qu'il devait avoir à peu près son âge. Les deux hommes se saluèrent avec respect, puis se jaugèrent quelques instants. Ils faisaient la même taille.
« Votre vol s'est bien passé ?»
C'était parce que l'anglais de Krutchek était approximatif que Charcot le comprit aisément.
« Parfait. Il est tard. Je vous propose de vous emmener à votre hôtel et nous trouverons un endroit calme pour discuter de nos dossiers respectifs. Le nom de l'hôtel ?»
Charcot sortit de sa poche un papier que lui avait remis le bureau d'émission.
« Hôtel Voski, Dolna Vilda 8. Proche des gares et de la vieille ville. À une dizaine de kilomètres d'ici à peine. Nous y serons dans une vingtaine de minutes. Votre retour est prévu pour quand ?»«
Demain après-midi. » »«
C'est du rapide. »
L'air du dehors était sec et cinglant. Charcot réajusta le col de son blouson. La nuit était totale. Le ciel sans nuages était parsemé de timides étoiles. Après avoir récupéré la voiture sur le parking, ils prirent la route. Il s'agissait là, sans aucun doute, du véhicule personnel de Krutchek. À l'arrière, il y avait deux sièges bébés et quelques emballages de bonbons.
« Vous avez deux enfants ?»«
Tobias, 4 ans. Et Ilona, 2 ans. Ils sont adorables. Et vous ?»«
Jules et Adrien. Ils ont 16 mois. Des jumeaux. »«
Ah, jumeaux. Ma mère avait une jumelle. »
Il parlait d'elle au passé. Charcot regarda son profil. Son nez un peu épaté, les deux petites cicatrices au niveau de l'arcade, une gueule carrée de pitbull. Et ses grosses mains sur le volant, des mains usées qui racontaient ses années de criminel. Il fixait la route sans rien dire, la bouche droite, un taiseux, comme Charcot. Le flic français savait reconnaître les policiers qui avaient morflé dans leur carrière. Il se dégageait quelque chose de leur silence et de leurs gestes mesurés. De l'autre côté de la frontière, Krutchek avait peut-être traversé les mêmes galères, les mêmes souffrances que lui. Franck laissa son regard errer sur les lumières de la ville qu'ils atteignaient déjà. Dans les larges avenues, les tramways aux couleurs criardes circulaient encore. Charcot avait imaginé une ville froide et austère, aux bâtiments à angle droit, mais nombre d'entre eux étaient en courbe, en arabesque. Les rues étaient bondées de jeunes qui s'engouffraient dans les bars et les restaurants. Les bâtiments aux façades baroques ou classiques étaient éclairés par des jeux de lumière qui produisaient une atmosphère fantomatique et donnaient l'envie de s'y perdre. Charcot pensa à certaines villes du Nord, comme Lille ou Douai. Les gens ici devait dégager la même chaleur. La chambre de l'hôtel n'avait rien d'extraordinaire, mais Charcot s'en fichait. Il avait demandé un quart d'heure à Krutchek pour se rafraîchir. Tout en enfilant une tenue plus décontractée, il appela Marie et prit des nouvelles de sa famille. Lucie commençait à retrouver un peu l'appétit. Les enfants étaient couchés et il l'avait réclamé. Quand il raccrocha, le cœur serré, il eut une pensée pour Nicolas. Son ami devait être en compagnie de son père. Franck songea aussi aux parents de Camille, à leur souffrance. Fort probable qu'il ne pourrait pas encore récupérer le corps pour l'inhumer à cause de l'obstacle médico-légal. L'attente ne ferait que prolonger leur douleur et rendrait le deuil impossible. Tout cela était tellement inhumain. À cause d'eux. Charcot soupira devant le miroir, regarda son poing abîmé et préféra ne pas s'attarder entre ces quatre murs. Pochette de documents à la main, il retrouva son homologue dans un coin tranquille du lounge de l'hôtel.